à tous et à toutes, peut-être à toutes et à tous. Et moi, je me réjouis donc de vous voir ce matin, d'être là avec vous. Et puis, je me réjouis aussi pour Clara. Hein, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir une jeune qui se dirige vraiment sur les pas du Seigneur. Voilà, donc ce matin, moi, je vais, comme d'habitude, je vais travailler en binôme avec Étienne, qui est mon collaborateur et qui va passer certains documents. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude, vous, de suivre l'actualité, mais nous entendons quotidiennement dans les infos des termes alarmistes tels que la violence Black Bloc, la guerre au virus, l'ensauvagement de la société, la fracture sociale, les extrémismes de droite et de gauche, le terrorisme islamique, les violences faites aux femmes, et puis maintenant, il y a même les tortures faites aux chevaux. Bon, je n'associe pas les femmes et les chevaux, bien sûr, c'est pas ça qu'il faut voir. Alors, je vais arrêter là mon énumération, car je pourrais consacrer toute la prédication à énumérer ces choses. Alors, c'est vrai que je regarde beaucoup LCI, et Wardia, il me dit, Wardia et les filles me disent, mais à force de regarder LCI, tu vas attraper la Covid, toi. Avouez que nous avons le sentiment profond d'être dans un monde fracassé qui fait peur et n'évolue pas bien. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi? Est-ce que vous ressentez ces choses? Alors, il est donc tout à fait légitime de s'interroger sur les raisons qui poussent les hommes à agir ainsi et pourquoi créer un monde qui fait peur. Et c'est comprendre surtout ce qui ne tourne pas rond dans notre société. Alors, j'écoutais toujours sur LCI, parce que moi, c'est ma chaîne, c'est la seule que j'ai d'ailleurs. J'écoutais l'autre jour donc un homme politique, Henri Guénaud. Et Henri Guénaud, qui est l'ex-conseiller donc de Nicolas Sarkozy, voilà ce qu'il disait. Il disait « La bestialité est dans l'homme. Et elle fait partie intégrante aussi de l'homme. » Mais cette bestialité, elle est contrôlée par la culture, l'éducation et la société. Lorsque ces contrôles disparaissent, eh bien cette bestialité, elle ressurgit, elle fait des hommes de véritables sauvages. Quel constat ! L'homme serait une bête sous contrôle de la société. Alors c'est vrai que nos élites, nos autorités, cite pêle-mêle comme cause de ce dysfonctionnement de la société, eh bien le chômage, la misère sociale, les injustices. Alors il y a certainement des choses vraies dans tout cela. Vous savez, un grand auteur français, Jean-Jacques Rousseau, lui affirmait « La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable. » Alors d'une manière plus brève, l'homme, il n'est bon, tout est de la faute de la société. Là, vous voyez, tout à l'heure, la société, elle le protégeait. Maintenant, c'est la faute de la société. Elle en fait un être méchant. Alors, est-ce que la solution, là, ce serait de vivre en dehors de la société, de vivre seul dans une grotte? Alors, personnellement, chaque fois que j'entends ce genre d'infos, que ce soit à la télé ou partout, eh bien, je ne peux m'empêcher de m'écrier, mais c'est exactement ce qui est écrit dans Romains 1. Vous savez, pour bien comprendre comment fonctionne le monde dans lequel nous vivons, eh bien, c'est bien d'écouter celui qui l'a créé et qu'est-ce qu'il en dit. Pour nous, chrétiens, il est important d'aller consulter la parole de Dieu, qui est un trésor de simplicité et aussi une source de vérité. Hein, on dit aussi la simplicité biblique. Jésus, dans sa prière sacerdotale de Jean 17, verset 17, dit « Père, sanctifie mes disciples par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Alors, me direz-vous, la parole de Dieu, la Bible, elle n'a pas été écrite par la main de Dieu. Et ça, c'est vrai. Elle n'a pas été écrite par la main de Dieu parce que la parole est Dieu. Au commencement, écrit l'apôtre Jean, était la parole de vérité. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Alors, frères, sœurs, la Bible que nous lisons n'est pas un livre d'information religieuse. C'est la vérité pure et sans tache. C'est la pensée de Dieu exprimée pour nous par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi le psalmiste pouvait écrire dans le psaume 119-160 « La vérité est le fondement de ta parole, ô Éternel. » Si donc la parole est vérité, elle est aussi lumière, celle qui éclaire tout homme, toute femme qui cherche sincèrement la vérité. Psaume 119, verset 130a, « La révélation de tes paroles éclaire. » Vous le savez, la Bible, la parole vivante de Dieu, est le livre de révélation divine par excellence. Il y a plein de révélations dans la Bible. Il nous révèle les choses passées, présentes, mais aussi à venir. Elle les fait comprendre à toutes celles et ceux qui les cherchent avec un cœur humble et sincère. Dans le psaume 119-130, donc la suite, elle donne de l'intelligence aux simples. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous êtes de celles et de ceux qui vont chercher des révélations, des explications à ce que vous vivez dans la Bible? Est-ce que vous le faites régulièrement? Christiane, oui. Alors ce matin, pour comprendre le dysfonctionnement de notre société, n'hésitons pas à ouvrir la Bible dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, et à partir du verset 18. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, la toute première révélation que la Bible nous apporte ce matin, c'est celle de la colère de Dieu qui se révèle du ciel. Avouez qu'il est plutôt rare de commencer une phrase par l'expression « la colère de Dieu ». On est plutôt habitué à entendre l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Dieu peut donc se mettre en colère. Cette révélation peut-être choquer certains ou certaines ce matin, car cela va à l'encontre de l'illusion qu'entretient l'homme sur Dieu, qui ne voit le plus souvent en lui que le Dieu bon, qu'il appelle communément le bon Dieu. Vous savez, le bon papa qui se fâche jamais. Asaph, le psalmiste, lui, il écrit dans le psaume 76, verset 8, « Que tu es redoutable, qui tiendrait devant toi, ô Dieu, quand ta colère éclate? Du ciel, tu fais entendre quel sera ton verdict, et la terre effrayée se tient dans le silence. » Voyez, le théologien évangélique John MacArthur, que je cite souvent, écrit « Le terme employé ici pour la colère est orgué. Il désigne une indignation enracinée et résolue. C'est le contraire d'une colère émotionnelle, momentanée et incontrôlée qui caractérise la colère humaine, thumos. Puisque Dieu est saint, il est juste et il est parfait, eh bien sa colère, par conséquent, ne peut être que juste. C'est une juste colère. » Alors me demanderez-vous, qu'est-ce qu'une juste colère? Et c'est une excellente question que vous me poseriez là. C'est celle d'un Dieu qui aime parfaitement ce qui est juste et qui est parfait, qui est le verbe haïr, et qui est parfaitement ce qui est mal et injuste. C'est très bien expliqué dans le psaume 45, versets 7 et 8. Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes d'un côté la justice et tu détestes, tu hais le mal. Cette juste colère est merveilleusement transcrite dans ce beau passage de l'évangile de Jean, chapitre 3, que je vous invite à lire avec moi, verset 16, et même vous pouvez le dire tout haut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la grâce exprimée dans l'amour par un Dieu qui a tellement aimé l'humanité perdue qu'il a sacrifié son unique Fils, son Fils bien-aimé, pour racheter l'homme déchu. Ainsi, quiconque croit que Jésus est mort pour ses péchés, eh bien, se trouve sauvé. Pourtant, la suite du texte exprime le profond courroux de ce même Dieu. Et le verset 36 n'est pas du même tonneau. Mais celui qui ne met pas sa confiance en lui, en Jésus-Christ, ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. Voilà, d'un côté l'amour, de l'autre côté la colère de Dieu. L'homme qui ne reçoit pas Dieu en Jésus-Christ rejette l'amour de Dieu et méprise le sacrifice que Jésus a pourtant accompli pour lui, volontairement. Cet acte injuste de refus, eh bien, déshonore gravement Dieu et le place sous sa juste colère. La seconde révélation que la parole de Dieu nous apporte ce matin est clairement exprimée par les versets 19 et 20. Alors, écoutez bien. Ils étouffent ainsi, les hommes, la vérité par leur malhonnêteté. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse. Ils n'ont donc, les hommes, aucune excuse. C'est dingue. C'est le refus volontaire de lui rendre l'honneur qui lui est dû, le refus de lui exprimer leur propre reconnaissance. Ils étouffent ainsi la vérité par leur malhonnêteté. Vous vous rendez compte? On pense généralement, moi je pensais aussi, que l'homme déchu est aveuglé, qu'il ne peut pas voir Dieu, que c'est hors de sa portée, c'est bien au-dessus de ses forces. Eh bien non, la parole de Dieu nous parle de vérité étouffée, de malhonnêteté humaine, et ça, je crois que ça mérite une petite explication. Vous savez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 18, on nous donne une information capitale. C'est marqué « Personne n'a jamais vu Dieu ». Ça, c'est confirmé par la Bible. Mais Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, qui vit contre le Père, avec le Père et dans le Père, eh bien, nous l'a révélé. Il nous l'a montré. Tout le monde a entendu plus ou moins parler de Jésus, de Jésus-Christ, qui s'est lui-même présenté comme Dieu et Fils de Dieu. Les hommes de son époque se sont adressés à lui en ces termes. Jean 6, 30. Quel signe miraculeux, au singulier, nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? En bon français courant, fais devant nous un miracle, fais une œuvre exceptionnelle qui va prouver que tu es Dieu, et là, nous pourrons croire en toi. Alors, Jésus, lui, il n'a pas fait un seul miracle, mais il en a fait des centaines. Dont les plus emblématiques sont à Cana, il a changé l'eau en vin. Il a marché sur les eaux du lac, il a multiplié les pains et les poissons, il a guéri des paralysés, il a redonné la vue aux aveugles, il a purifié des lépreux. Et à Béthanie, il a même ressuscité son ami Lazare qui était mort. Alors devant toutes ces preuves, ces hommes vont forcément se mettre à genoux, ils vont glorifier Dieu et reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, c'est sûr. Suspense. La réponse est dans Jean 12, 37. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. J'avais un jeune Clément qui était à Flavigny quand j'étais kiné. C'était un jeune patient. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, écoute Daniel, je suis dans le champ d'été, je sais que tu es croyant, moi je suis athée. Je passe le brevet, est-ce que tu pourrais prier pour moi parce que, vu mes notes, j'ai peu de chance de l'avoir. Ah, il dit, Clément, ce que tu me demandes là, c'est de prier pour un miracle. Hein. Alors j'ai prié pour Clément, il a eu son brevet, est-ce que vous croyez qu'il a cru après? Ah non. Vous avez vous-même la réponse. Il m'a dit, ouais, mais ça c'était le bol. Alors me direz-vous, tout le monde n'a pas vu les miracles de Jésus, même si beaucoup en ont entendu parler, mais qu'à cela ne tienne. Verset 19. Ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour les hommes, Dieu lui-même le leur ayant révélé. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit, parce que la plupart des gens ne réfléchissent pas. La parole de Dieu appelle l'homme à un minimum de réflexion. Lorsqu'on considère les miracles de la création divine, comment peut-on douter que derrière la perfection de la mécanique humaine, mais aussi le miracle de la création de la vie, d'un enfant qui naît, se trouve le hasard? Avouez qu'il faut une bonne dose de mauvaise foi pour oser dire que nous provenons d'une poussière cosmique qui a évolué vers l'homme. Vous savez, rien que le cœur humain, qui pèse moins de 250 grammes, peut travailler suffisamment en 12 heures pour soulever l'équivalent de 65 tonnes à 3 cm de hauteur. Et que dire du rein, qui est un filtre merveilleux, du cerveau, qui est mieux que les ordinateurs les plus perfectionnés, les yeux et les oreilles qui ont été créés avec une minutie incroyable. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là dans la révélation de son existence. Comment ne pas être interpellé et émerveillé par la multiplicité des espèces animales et végétales, par la perfection de leur fonctionnement? Bon, on va prendre quelques exemples, mais le caméléon qui peut changer de couleur grâce à certaines zones de sa peau qui renferment des pigments. La grenouille d'Andromade dorée de Colombie, que tu as peut-être rencontrée, qui peut fabriquer suffisamment de poison pour tuer jusqu'à 1500 personnes. L'étoile de mer qui est capable de faire sortir son estomac par sa bouche afin de dévorer une très grosse proie. Mais ce sont toutes des choses extraordinaires. Comment, si on prend un temps pour réfléchir, peut-on penser qu'ils n'ont pas été créés? Enfin, Dieu a révélé à l'homme sa puissance éternelle en lui offrant le spectacle de l'univers entier qui est énorme, des montagnes et des étendues d'eau, des splendides cascades, des chutes du Niagara, mais aussi de l'infini petit avec le monde des microbes. Il y a mon beau-frère qui me disait là récemment, il me disait, tu sais Daniel, je comprends pas, le coronavirus, il est tout petit, il est microscopique, personne ne le voit, mais tout le monde en a peur. Alors que Dieu, il est grand, il est puissant, personne ne le voit, mais personne ne le craint. Il n'avait pas tort. En y réfléchissant sérieusement, comment ne pas croire au Dieu créateur? D'ailleurs, à toutes celles et ceux qui doutent de l'existence du créateur, Dieu a donné l'exemple de la poule. Vous savez, un jour, un homme affirmait, oh, depuis que j'ai fait maintenant des études de philosophie et de mathématiques, eh bien, pour moi, Dieu est devenu un concept vide de sens. Ah bon, lui rétorqua quelqu'un, pouvez-vous me dire d'où est venu cet œuf alors? Bien évidemment d'une poule. Et d'où est venue la poule qui l'a pondue? Ben, d'un œuf, bien sûr. Qui existait le premier, la poule ou l'œuf? Personne ne peut expliquer l'existence d'une poule ou d'un œuf sans qu'il y ait eu une première création. La Bible dit clairement que Dieu, le Créateur, a très visiblement révélé à l'homme son existence. Il lui a donné un cerveau pour réfléchir, il lui a donné des yeux pour voir, il lui a donné une intelligence pour comprendre. La Bible dit que c'est suffisant pour chercher Dieu. Pourtant, la grande majorité des hommes pécheurs a rejeté la vérité de l'existence de Dieu, son évidence. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils ont étouffé ainsi la vérité par leur malhonnêteté. Alors bien sûr, on peut se poser la question, mais quel est l'intérêt pour l'être humain, pécheur, de rejeter Dieu et de refuser le salut de Jésus-Christ? Eh bien, la parole de vérité nous en révèle la véritable raison. Jean 3,20. Voici en quoi consiste la condamnation de Dieu. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Alors pourquoi il la déteste? Eh bien, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Voilà pourquoi il ne veut pas venir à la lumière. C'est clair, les êtres humains pécheurs ne croient pas en Dieu, ne recherchent pas Dieu, étouffent la vérité parce qu'ils sont attachés à leur vie pécheresse. même s'il souffre, et ne désire ni y renoncer, ni la mettre en lumière. Verset 21. Connaissant Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes, et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Se vantant, alors ça c'est beau, hein, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous le savez, la Bible nous révèle le plan de Dieu pour l'homme. C'est avant tout un plan salvateur, c'est le plan du salut. Mais pas que, c'est aussi un plan de relation entre Dieu et l'homme. Un plan pour guider l'homme déchu dans la bonne direction, celle du royaume de Dieu et de l'éternité. C'est le verset qu'a rappelé Jean-Haut tout à l'heure, Jérémie 10, 23. « Je le sais, ô Éternel, le destin de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. En vérité, l'homme n'est pas un esclave de Dieu. Il a besoin de Dieu. Il a besoin de Dieu. » Et c'est exprimé dans Jean 15, 5. Jésus dit « Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, porte des fruits en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. » Là encore, Dieu est clair. Sans lui, on ne peut rien faire de bien, d'intelligent et de sage. Par contre, on peut faire plein de bêtises. Nous l'avons dit, l'homme pécheur qui a rejeté Dieu se retrouve autonome et doit diriger lui-même sa vie. Privé de son divin tuteur, il devient son propre maître. Il est son propre Dieu. Il devient Dieu. C'est lui qui dirige ses pas. Il se croit sage. Il se croit intelligent. Proverbe 12, 15. L'insensé pense toujours qu'il fait bien. Il pense toujours qu'il fait bien dans sa vie. Mais d'où provient l'intelligence? Je vous pose la question. Qui incarne la sagesse? Ben Dieu, bien sûr. Proverbe 3, 18, 20. La sagesse divine est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Ayant renoncé à cette sagesse divine, à ce que l'intelligence de Dieu guide ses pensées, eh bien maintenant l'homme déchu s'appuie sur son intelligence humaine, pécheresse, obscurcie par le péché. Jacques, dans sa lettre, il écrit ce beau passage, Jacques 3, versets 14 et 15. « Si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de se vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à sa propre nature, elle est démoniaque. » Voilà, sagesse divine, sagesse humaine. Cette sagesse humaine démoniaque dont parle Jacques, c'est celle qui anime toutes celles et ceux qui ont rejeté Dieu. Car en le rejetant, ils se sont privés de la sagesse divine, paisible et heureuse. 1 Corinthiens 2, 8, cette sagesse divine, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Et là, vous allez voir ce qui est marqué. Car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux, c'est évident. Les fruits de cette sagesse humaine, directement produits par leur cœur et leurs pensées impactées par le péché, quels sont-ils? Ils sont totalement transformés, ils ont totalement transformé la vérité en mensonge. Les fake news, Dieu n'existe pas, le complotisme, le négationnisme. Ils ont transformé le bien prôné par Dieu en ce qui était mal à ses yeux. Ils ont aussi transformé l'unité en désordre. Au lieu de se rallier à la pensée de Dieu, ils ont chacun leurs opinions. Ils ont chacun créé des sectes, des partis. Ils ont enfin transformé la paix en guerre. Ce monde est parcouru par des guerres terribles qui ont fait des millions de morts. C'est la faute à Dieu ou c'est la faute à l'homme ? Se vantant d'être sages, les hommes sans Dieu sont devenus totalement fous. Chacun peut constater dans sa propre expérience combien ce monde marche totalement sur la tête. En réalité, on pourrait passer une prédication entière à énumérer les actes de folie gérés par ce monde. Bon, j'en cite deux, les deux dernières en date. Hein, les chevaux que l'on poignarde et torture en pleine nuit, véritable folie et barbarie. Pourquoi aller massacrer des chevaux? Et puis deux retraités à qui on a squatté la maison et qui doivent dormir dans leur voiture. C'est injuste, mais c'est permis par la loi. C'est totalement fou. Verset 24. Ils ont choisi d'offrir leurs hommages et leurs cultes à des divinités de leur invention. Ils ont servi la créature au lieu du créateur qui est seul digne de louange et d'adoration dans toute l'éternité. Oui, cela est vrai. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est si le monde a rejeté Dieu, l'homme déchu n'en reste pas moins assez religieux. Il a besoin d'un Dieu, il a besoin d'une religion. Et ce n'est pas étonnant. Souvenez-vous, par exemple, lorsque Moïse a tardé à descendre de la montagne, quelle est la chose, la première chose que les hommes ont fait? Ils sont créés un veau d'or en disant « Mais Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Voilà, ils se sont créés un Dieu. Ce besoin religieux n'est pas innocent, il a trois raisons. La première, selon Ecclésiaste 3.11, Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a même implanté au plus profond de l'être humain la pensée de l'éternité. C'est cette pensée qui lui rappelle que la vie ne s'arrête pas à la mort. Cette pensée, c'est vrai, il peut l'étouffer et dire « non, il n'y a rien après ». Ou alors se créer une religion autour de l'éternité. La deuxième raison, en rejetant Dieu, l'homme s'est grandement rendu coupable. Il sait au fond de lui qu'il a besoin d'un Dieu. Alors, il essaye de se déculpabiliser, d'amadouer sa conscience en se recréant des dieux de sa propre invention. Et puis la troisième raison, l'homme déchu veut bien d'un Dieu, mais qui soit à sa convenance, un Dieu qui lui ressemble et qui surtout ne dévoile pas son cœur, qui lui foute la paix, quoi. Un Dieu qui lui foute la paix, quoi. Ça, c'est la religion. Pour toutes ces raisons, pour le grave déshonneur porté à Dieu, l'homme déchu reste sous la colère divine. Et cette colère d'en haut va s'exercer de deux manières différentes dans le bon, dans le monde d'en bas. Elle constitue une mise en garde pour l'homme. Elle appelle à un changement de comportement pour l'homme, à une prise de conscience collective, mais aussi individuelle. Et voici brièvement ces deux façons de placer l'homme sous sa colère. De manière directe. Dieu qui fait luire, selon Matthieu 5,45, son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et sa pluie aussi bien sur les justes que sur les injustes, ça c'est la grâce de son amour inconditionnel. Vous savez, il pleut aussi bien chez mon voisin non-croyant que chez moi. Hein, il y a autant de soleil chez mon voisin non-croyant que chez moi. De même, peut s'exercer, selon Ézéchiel 14,13, contre la population qui se met en tort contre Dieu, en multipliant ses infidélités, toutes sortes de destructions. Et cela peut toucher aussi les justes. Ce n'est pas parce qu'on est juste que nous, on ne subit pas les conséquences de ce monde injuste. Dieu peut frapper dans sa colère le monde par toutes sortes de maux et de catastrophes naturelles. Enfin, je ne vous les citerai pas, mais il y en a plein en ce moment. Hein. Je vous livre aussi, pour réflexion, sans commentaire, ce verset d'Amos 3.6, un malheur viendra-t-il frapper une cité, à moins que l'Éternel en soit l'auteur? Et puis, il y a aussi la manière légale d'être sous sa colère. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est lui qui a créé toutes les lois physiques. Par exemple, si quelqu'un tombe d'un toit, il va se faire très mal. C'est une loi physique. Hein? Si quelqu'un de même pêche, eh bien, il tombe sous la condamnation. Romains 6, 23, le salaire que mérite le péché, eh bien, c'est la mort. Voilà. Ça, c'est une loi divine. Alors, bien sûr, Dieu ne va pas intervenir à chaque péché commis par l'homme pour exécuter sa sentence. Non, les hommes ont rejeté Dieu, Romains 1, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour être le jouet des passions et des convoitises de leur cœur. En français, de la jupe de Vendeuvre, tu veux te débrouiller, hein, tu veux te débrouiller sans moi, eh bien montre ce que tu sais faire. Fais selon tes pensées et laisse parler ton cœur. Allez, débrouille-toi. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Dieu contrôle le monde, mais il laisse l'humanité s'enliser dans son péché, dans ses œuvres autodestructrices, dans sa folie. Un proverbe populaire que vous connaissez sans doute dit « C'est à la fin du bal qu'on compte les bouchons ». Quand la fête est finie, on fait le compte de ce qu'on a bu, ce qu'on a consommé, et on paye. À la fin des temps, au tribunal de Dieu, il faudra rendre des comptes. Celle et celui dont les péchés seront couverts par le sang de l'agneau seront graciés. Mais celles et ceux dont les péchés ne sont pas couverts par le sang de l'agneau, eh bien, seront, eux, condamnés. Mais en attendant, notre monde et chacun de nous, on vit les conséquences terrifiantes, catastrophiques du rejet de Dieu. Et je vais terminer sans les commenter, ou brièvement, ils n'ont pas besoin de commentaires, ces derniers versets de Romains 1, écrits, je vous le rappelle, en 56 après Jésus-Christ. Ce que je vais vous lire pourrait faire la une de tous les journaux du monde actuel. Verset 26. Voilà pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, ne recherchant plus l'amour de la femme, comme Dieu le voulait, se sont enflammés les uns pour les autres, commettant entre hommes des actes honteux. Tout leur être supporte les conséquences que leur égarement méritait. Voilà. Dieu, vraiment, est l'homosexualité. Mais il aime l'homosexuel. Il a vraiment pour lui quelque chose qui l'amène à lui dire « Change de comportement, viens vers moi. » Verset 28. « S'efforcer de connaître Dieu leur a paru inutile. Et même, ils n'ont pas cru nécessaire de garder intacte la notion de Dieu qu'ils possédaient pourtant. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées futiles. Il les a livrés à l'empire de leur instinct corrompu, les laissant commettre les infamies que leur esprit obnubilé imaginait et que leur sens pervers réclamait. Dans leur vie s'accumulent toutes sortes d'injustices et de perversités. » Bon, je ne citerai pas les grands pédophiles. « L'amour de l'argent les possède. Ils sont saturés de méchanceté et d'envie. » Regardez, certains gagnent tellement d'argent qu'ils ne pourront jamais le dépenser. Et ils vivent à côté de gens qui meurent de faim. Et que dire des gens qui sont tellement riches qu'ils cherchent encore à s'enrichir. Des pensées homicides, un esprit de discorde et de querelle les anime. Rusés, fourbes, intrigants, perfides, ils sont toujours prêts à se dénigrer et à se calomnier les uns les autres. En secret et au grand jour, notre quotidien, les débats politiques, les réseaux sociaux sont le théâtre de ces pensées homicides. Dans leur cœur, ils haïssent Dieu et blasphèment son nom. Violents et arrogants, ils prennent tout de haut. Ils sont fanfarons et pleins d'eux-mêmes. Leur esprit fourmille d'inventions diaboliques. Vous savez, nous vivons de plus en plus dans des sociétés déchristianisées qui injurient et méprisent Dieu sans crainte et qui se livrent en plein jour à des actes violents contre l'autorité et contre Dieu. Ils méprisent leurs parents et se moquent de leurs devoirs familiaux. Légers, superficiels et insensés, ils sont inaccessibles aux bons conseils. Déloyaux et inconstants, ils n'ont pas de parole, pas d'affection naturelle. Ils sont durs, impitoyables et dénués d'esprit de réconciliation. La famille, le mariage, les vœux et les engagements faits le jour du mariage, tout vole en éclats. La conclusion, en un seul verset de Romains 1, sera ma conclusion ce matin. Verset 32, alors écoutez bien. « Ils savent fort bien, dans l'ordre établi par Dieu, ceux qui agissent ainsi méritent la mort. » Ils le savent. « Malgré cela, non seulement ils persistent dans leur voie, mais ils se réjouissent en voyant d'autres marcher sur leurs traces. » Et ils se font leurs complices en les approuvant. Vous connaissez cette expression latine ? Errare humanum est. L'erreur est humaine. Il est de la nature de l'homme de se tromper. Mais persévérer, diabolicum, mais persévérer, insister dans l'erreur, conduit notre monde, notre société, droit dans le mur et dans la souffrance. Prenons nos distances avec l'esprit du monde. Attachons-nous à Dieu, mais aussi prions pour que les événements difficiles que nous traversons déclenchent une remise en question, déclenchent quelque chose chez celles et ceux qui les subissent. Amen. Voilà, je vous prie, on va prendre un moment pour prier. Seigneur, merci pour ce passage de Romains 1. Et Seigneur, tu nous montres que nous allons passer et nous passons des moments difficiles, mais que cela, Seigneur, est expliqué. Et Seigneur, aide-nous à nous attacher à toi. Et c'est vrai, Seigneur, que dans ces moments les plus difficiles, nous avons besoin aussi de ta présence. Nous avons besoin que tu nous encourages, que tu nous aides, que tu nous guides. Et que tu nous protèges, Seigneur, contre les événements qui arrivent, qui se passent et qui vont arriver. Que la gloire, Seigneur, t'appartienne. Et je te confie chacun de nous dans cette Église. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Merci.